Natal. J'ai réfuit totalement cette idée.
Moi, c'est Céline de Bourgogne au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Les fonds collectés par la régie des voies aériennes RVA dans le cadre de la taxe aéroportuaire d'embarquement IDEF, communément appelée GOPAS, échappent totalement au contrôle du gouvernement. Dans un point de presse tenu il y a quelques semaines à Kinshasa, le Premier ministre a indiqué que le GOPAS est une parafiscalité destinée à la RVA et gérée exclusivement par elle. Une situation qui, selon plusieurs observateurs, rend opaque la gestion de ces fonds. Certains estiment que cette taxe devrait être gérée entre la RVA et d'autres régies financières. Une autre opinion propose par contre la suppression pure et simple du GOPAS, estimant qu'il ne rend pas service à la nation. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Je lui fais assure la réalisation et Pierrot et la Meiji vous le présentent sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Nous vous disons merci pour votre sympathique attention, la confiance que vous faites à Radio Capi, à Parole aux auditeurs. Après trois jours de soucis avec les lignes téléphoniques, nous voici en direct pour ce magazine d'échange citoyen. Nous avons associé à cet échange Michel Somoé, analyste économique avec qui nous sommes dans ce studio. Monsieur Somoé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
Et nous parlons de GOPAS, cette taxe instauré en 2009 avec comme bien sûr but la collecte de fonds auprès des passagers sur les vols tant nationaux qu'internationaux ainsi que du fret de la même nature pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures aéroportuaires sur toute l'étendue du territoire national. Avant d'aller plus loin, nous avons consulté le rapport de la Cour de compte entre 2009 et 2012 sur la gestion de cette taxe. Il ressort de ces rapports de la Cour des comptes que la perception de ces fonds ainsi que leur utilisation ont été mal organisées et mal encadrées et la Cour des comptes estime qu'il faudrait mettre de l'ordre pour que réellement cette taxe puisse répondre à l'objectif. Michel Somoé, vous êtes économiste. Bien avant que nous puissions évoquer la situation de cette taxe, le Premier ministre a dit que c'est l'IDEF, c'est une parafiscalité gérée par la RVA dans le domaine de la fiscalité. C'est quoi pour permettre aux auditeurs de comprendre une parafiscalité?
Ben, écoutez, je peux dire que c'est tout ce qui ne rentre pas directement dans le champ des impôts. Fait partie de ce qu'on appelle la parafiscalité. Ce sont essentiellement des taxes qui sont payées, qui sont perçues par des services utilisateurs pour le compte, bien sûr, d'une entreprise ou d'une autre, mais qui n'entrent pas directement dans le champ de l'activité de la fiscalité, du système fiscal national. Par exemple, quand on parle de la taxe IDF, je crois qu'on appelle le GOPAS communément, c'est une taxe qui est en fait prélevée par la RBA. La RBA ne fait pas partie du système fiscal comme on appelait, comme on l'est par exemple la DGI, la DGDA et la DGRAD, etc. Mais ça, encore faut-il dire que les côtés de la DGRAD sont essentiellement vraiment des taxes administratives et autres. Donc les taxes qui sont perçues, qui font, comment je peux le définir autrement, la question me surprend un tout petit peu, les taxes qui sont ainsi perçues en dehors du système fiscal normal, ne font partie de la parafiscalité.
Et
elle est parafiscalité parce que elle ressemble à une fiscalité. Donc c'est une c'est presque une fiscalité, mais sauf que c'est le domaine des taxes. Et comme on dit, le domaine des taxes, c'est quoi? La différence entre l'impôt et la taxe, c'est que l'impôt est un prélèvement sans contrepartie, tandis que la taxe a essentiellement et nécessairement une contrepartie.
Et ici, pour l'IDEF, comme nous l'avons démontré tout à l'heure, selon la décision numéro RVA DG 09 de 2009 du temps de l'ADG Jean Assis qui avait instauré, l'objectif c'était pour financer les travaux de la réhabilitation et la modernisation des infrastructures aéroportuaires sur toute l'étendue du territoire national. Mais une part fiscalité, comme l'IDEF qui doit être géré par la RVA, mais en termes de contrôle, pour qu'on s'assure en principe de la gestion de cet argent, quelle est l'autorité en principe qui doit se rendre compte de quelle manière une parafiscalité peut être gérée, quelle que soit l'entreprise qui a initié cela?
Bon, vous savez, la parafiscalité, comme je disais, elle est instaurée nécessairement avec l'autorisation du pouvoir public. Et à partir du moment où il y a le mot fiscalité qui intervient, il y a donc un prélèvement, il y a donc une imposition. Dans le type qu'on ne veut pas, ça peut être aussi une imposition. Et qui dit imposition, dit ponction sur le revenu, l'épargne de la population, des ménages, donc des entreprises. Automatiquement, étant donné que l'État congolais a l'obligation d'assurer la protection des hommes et de leurs biens, il est important que l'État s'assure de la bonne utilisation et même de la bonne de bonnes conditions de perception de cette taxe. L'État ne peut pas dire totalement qu'il ne s'intéresse pas à la façon dont c'est fait, parce que ça touche au revenu du citoyen, ça touche à l'épargne du citoyen. Donc il est important que l'État s'assure que les conditions de perception et les conditions d'utilisation sont conformes aux motifs pour lesquels la taxe avait été autorisée. Je dis bien qu'elle a été autorisée par le pouvoir public. La RVA ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et installer une taxe, commencer à prélever l'argent sur le poste des citoyens sans autorisation préalable du pouvoir public. Donc, dans le cas d'espèce, nous avons tous les services de l'État habilités à faire le contrôle, qui ont le pouvoir, à mon humble avis, d'intervenir pour s'assurer que la taxe est bien faite, notamment la Société Générale des Finances, lorsqu'elle est ordonnée par le ministère des Finances, ou la Cour de contrôle pour le compte du Parlement. Ce sont des institutions, des outils dont l'État dispose pour assurer le contrôle de la perception et le contrôle de l'utilisation de ces ressources à la différence de l'impôt, la seule différence est que ce sont des ressources qui sont perçues pour un motif précis.
Effectivement.
Pour une contrepartie claire et nette. Et dans le cas d'espèce, c'était pour la construction et la modernisation des aéroports, des infrastructures aéroportuaires. Donc l'État sait que c'est pour ça et j'autorise. Alors automatiquement, l'État est obligé d'assurer le contrôle de la façon, dans la façon dont c'est perçu et aussi dans la façon dont c'est utilisé pour éviter les abus.
Mais en lisant le rapport de la Cour des comptes, effectivement, il y a une inquiétude qui ressort de ces rapports. C'est le fait déjà que le comité de gestion qui avait instauré cette taxe avait ouvert un compte en Afrique du Sud au niveau d'une banque privée sud-africaine où le fonds devait être transféré. Est-ce que dans la pratique, une redevance d'une entreprise publique peut-elle être gérée, transférée sur un compte d'une banque privée et a fortiori à l'extérieur? C'est ça aussi l'inquiétude au niveau des enquêtes qui ont été menées.
Bon, je pars de la supposition que cette affirmation est fondée parce qu'elle vient de la Cour des comptes. Je vais donc m'attarder sur la suite de cette question en considérant que c'est une réalité parce que je n'en ai pas les preuves et je n'assume aucune responsabilité. Si tel est le cas, c'est-à-dire la taxe prélevée est transférée dans un compte à l'extérieur, à mon humble avis, ça devient de la tricherie, pure et simple. Parce que la taxe, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une raison pour laquelle elle a été prélevée. Transférer dans un compte à l'extérieur, pour quel motif? Pour être placé dans ce compte, dans les banques étrangères, et servir au financement des économies de ce pays-là, ou est-ce que cela peut encore revenir, ou c'est pour l'achat des matériaux et autres? Quelqu'un ne parlerait même pas de transfert des fonds dans un compte à l'extérieur. Si la RVA a ouvert un compte à l'extérieur pour pouvoir loger ses avoirs dedans, ce n'est pas correct. Mais là, ça me rappelle un peu, Pierrot, si vous permettez que je remonte l'histoire, ça me rappelle un tout petit peu, toujours avec la même RVA, Le grand motif pour lequel M. Lunda Bululu avait démissionné de la primature, moi j'étais son conseiller économique. Et je peux avoir le courage de dire à haute voix qu'il y en a un autre qui avait motivé cette démission était venue de ma part. Là, une des raisons fondamentales pour laquelle il avait démissionné, c'était justement le fait que les entreprises de l'État, les entreprises publiques du Congo, se permettent comme ça de faire échapper à l'économie nationale les capitaux importants pour les placer dans des comptes à l'extérieur, lesquels comptes ne servent qu'à financer les économies de ce pays-là. En 1990, Lunda Bululu avait demandé, en fait, à tous ces petites entreprises de clôturer leurs comptes à l'extérieur pour rapatrier leurs avoirs au Congo et ainsi financer l'économie nationale et créer des conditions d'un cadre macroéconomique plus ou moins agréable. Mais le premier à avoir refusé, boycotté ouvertement et clairement, c'était la RBA. À l'époque de M. Kikunda, il s'est écrit au Premier ministre, dans une note très claire et très précise, pour dire « Monsieur le Premier ministre, j'ai pris note de votre demande, de la convocation de votre réunion, mais je ne saurais pas être à cette réunion, mais s'agissant de l'ordre du jour, je vous informe que la RBA ne peut pas clôturer sa compte à l'extérieur parce que nous avons des accords avec des partenaires, ça, c'est patata. » C'était des arguments qui ne tenaient pas debout. Mais on sait très bien que la RBA a des accords avec des régies semblables à travers le monde. Et que ce n'est pas l'argent, notamment du GOPAS, qui devrait permettre à la RBA d'assurer les paiements de ce qu'il doit à ses partenaires pour des cas éventuels de survol de l'espace national, etc. C'est un peu ça la confusion qu'il y a dans la RBA. Pour me résumer.
Rapidement, pour éviter les auditeurs,
pour me résumer, je dis que, à mon humble avis, placer de l'argent prélevé pour le compte de la modernisation des stations aéroportuaires, placer cet argent à l'extérieur du pays, bénéficier des intérêts autres, c'est de la tricherie pure et simple, je ne veux pas dire détournement.
Merci beaucoup, Michel Somoy. La Cour des comptes, dans ces documents que nous avons ici sur notre table des décisions, indique clairement toutes les transactions, mais aussi les fonds comme ils ont été transférés. Mais la recommandation de la Cour des comptes, c'est qu'on arrive à améliorer la gestion de cette taxe pour qu'elle réponde exactement à la mission pour laquelle elle a été instaurée. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Maître Laurent, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Merci. Pour vous, il y a deux opinions qui se dégagent dans cette émission. Il y en a qui estiment que pour assurer la bonne gestion de ces fonds collectés, il faudrait qu'on associe d'autres régies financières dans la gestion de cette taxe pour qu'elle réponde réellement à la mission. Mais d'autres observateurs estiment carrément que si elle ne peut pas répondre à la mission, autant mieux la supprimer. Quel est votre point de vue?
Quant à moi, sincèrement, je demande qu'on la supprime tout simplement. Parce que ça n'entre que dans le cadre de l'opinion qu'on dit le Congo, c'est le paradis de l'impunité. Parce que ces fonds ont été collectés depuis, je pense, si je ne m'abuse pas, ça peut être entre 2008 ou 2009.
Depuis 2009, oui.
Voilà. Alors, jusqu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, imaginez-vous combien de passagers, prenons seulement le cas de l'aéroport d'Ndjili, de Lubumbashi, de Goma, où il y a des vols internationaux, et $50 par passager, et combien de passagers voyagent? Ce sont des milliers de dollars qui entrent par jour, et ce sont des millions par mois, mais quels sont les aéroports qui ont été réhabilités dans notre pays? Je vous dis, ce n'est que l'escroquerie pure et simple, et prendre encore ce même argent pour aller placer dans des banques à l'extérieur, ça témoigne grandement l'impunité consacrée totalement dans notre pays.
Alors pour vous, Maître Laurent, vous souhaitez qu'on supprime carrément, parce que vous estimez que c'est beaucoup d'argent généré, il faudrait que la taxe soit supprimée. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, faudrait-il, parce qu'on estime qu'il y a une opacité dans la gestion, faudrait-il supprimer ou il faut mettre carrément de l'ordre pour que ceux qui payent la taxe puissent voir effectivement les aéroports réhabilités et modernisés par ces fonds collectés, Maître Sonville?
En tout cas, M. Jouer, je crois que M. Chiron, je crois que j'avais entendu saluer les autres invités et les millions d'auditeurs de la région Okapi.
Mm-hmm.
Par rapport maintenant à la thématique, M. Chiron, j'estime que cet argent, avant de répondre à votre préoccupation, j'estime que cet argent ne bénéficie en rien à la RVA. Puisque la RVA est là pour veiller à ce que tout passager qui embarque puisse avoir les deux passes. Et comment est-ce que se calcule même ces deux passes? Et donc, parce que au niveau du domestique, ici à Lubumbashi, on paye 15 dollars. C'est-à-dire 10 dollars pour le GoPass et 5 dollars pour la taxe provinciale, en ce qui concerne le vol domestique. Mm-hmm. En ce qui concerne le vol extérieur, on paye 55 dollars. 50 dollars pour le GoPass et 5 dollars pour la taxe provinciale. Mais là où je ne parvenais pas à comprendre, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a signé ce contrat. Il se justifie dans ce sens que le gouvernement a signé le contrat avec la BAD, la Banque de Développement, pour entreprendre beaucoup de pour entreprendre le réaménagement des infrastructures de la RDA. En ce qui concerne le Lubumbashi, il y a eu quand même des travaux qui se sont effectués en ce qui concerne la caserne anti-incendie, le bloc 8 et le tour de contrôle. Et on peut ajouter à ceci, à nouveau de Kinshasa, l'aérogare modulaire pour les vols internationaux. Mais cet argent passe directement dans deux banques qui sont agréées, la banque Robin et la BIAC, que les passagers payent directement auprès de cette banque. Et le gouvernement a un droit de regard à cet investissement-là. Alors la question que je me pose, où va cet argent lorsque cet argent est reversé à la banque, reversé au niveau de ces banques-ci? D'après les explications que nous avons recueillies, c'est-à-dire que la BAD finance directement ces travaux-là et récupère à partir de cet engagement qui est effectué auprès de ces banques-là. Mais là où nous posons mille et une questions, le gouvernement congolais a aussi un regard sur cet argent-là. Comment se fait le partage? Est-ce que la Cour des comptes, dans ses investigations, dans son rapport qui a été fait, et est-ce que la Cour des comptes a fixé l'opinion soit disant que ce partage est fait de telle ou telle ou de telle façon? Quelle est la part du gouvernement? Et où va cette part de ce gouvernement-là? C'est là où il y a un flou.
Maître Sandus, si on peut bien en séparer, parce que le financement de la Banque africaine de développement pour que ce soit les travaux au niveau de l'aéroport international d'Ndjili ou bien la loi Noa à Lubumbashi, c'est une part de ces financements. Mais selon la Cour des comptes, le rapport que nous avons, cela veut dire que depuis le comité de gestion de Jean Assis, il y a des emprunts qui ont été effectués par la RDA auprès de, que ce soit Roman, que ce soit bien que d'autres banques, des emprunts maintenant qui doivent être remboursés par la RDA via le GoPass. C'est ainsi que vous verrez les agents de ces banques qui ont reçu des carnets et des coupons pour pouvoir percevoir l'argent, rembourser les emprunts effectués par la RDA. C'est comme ça que la Cour des comptes a pu donner ces rapports. Nous rappelons que c'est depuis 2012 que ces rapports existent. Mais vous souhaitez, vous, mettre son ville, que les choses soient expliquées à la population clairement. On perçoit combien d'argent, on utilise à quoi, on rembourse comment, tout ça, toutes ces questions doivent être réglées pour permettre à ce que la population comprenne ce qui se passe autour de cet argent. Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous nous avez appelé de Lubumbashi dans la province du Katanga. Maître Likonza, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Maître Likonza. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour mieux gérer cette taxe?
Bon, la première des choses serait d'abord de stager la nation même des GoPass. Puisque c'est une question comme si beaucoup de gens proposent certaines solutions sans connaître la nature même du GoPass. Première question, on est dans des domaines qui ne relèvent pas de l'impôt. Puisque jusqu'à preuve du contraire, l'impôt ne s'ouvre pas à une contrepartie. Il ne s'agit pas aussi d'une taxe fiscale. Parce que c'est la taxe fiscale, comme si l'impôt est une imposition, mais elle ne peut être acquittée que dès lors le service est mis à la disposition des usagers. Mm-hmm. On utilise ce service ou pas, la taxe fiscale doit être acquittée. Dans le cas du testament, si je reste dans l'hypothèse du premier ministre, on comprendrait que l'impôt passe à la nature d'une taxe parafiscale, voire aussi d'une rédévance pour service rendu. Et parce que le Code parle de la parafiscalité. La taxe parafiscale permet à un organisme public ou semi-public, voire aussi privé, de financer de manière autonome ses services. C'est-à-dire qu'un organisme tel que la RDA peut créer une taxe parafiscale comme aussi une rédévance sous forme de GoPass tels qu'ils sont en train de devenir maintenant, dans le but de financer de manière autonome ses services à l'interne. Et donc là, on ne doit pas confondre les choses par rapport à une régie financière. Là, c'est tout à fait loin de ce de toute nature reconnu des droits à une régie financière. Bon, depuis que le groupe a sur l'aperçu, on ne comprend rien de ce qui se passe. Là aussi, c'est un problème réel parce que il s'agit bel et bien de la taxe parafiscale, voire aussi de la redevance. On doit nous dire le service qui a été mis en place pour que nous arrivions à acquitter les groupes passes. Juste après le contrat, je ne vois pas ce service-là. Mais on nous dit qu'il y avait une mission assignée à la RVA qui groupe passe devrait bel et bien financer. Ça, c'est vraiment un flou. Et aussi une complication par rapport à la compréhension de la population.
Mmh.
La redevance, comme aussi la taxe parafiscale, ne peut être acceptée que lorsque la contre-prestation est effectivement utilisée par les redevables et non pas seulement mise à sa disposition. Voilà que le COPAC a une nature tout à fait sui generis. Et donc, c'est un peu complexe, complexe, mais aussi compliqué. C'est pourquoi je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens en sont en train de proposer une suppression pure et simple. Et là aussi, ça doit poser un problème au sein même de la RVA, parce que la RVA a une mission. La mission consiste par exemple à financer les ouvrages, la réhabilitation des aéroports, les installations des aéroports et tout. Mais sur le terrain, depuis plusieurs années, pratiquement rien. Sauf quand ça fait des jours où on venait de inaugurer un ouvrage, il y a eu d'autres financements étrangers. Ben, juste à cause du contraire, le temps nous dit si vous passez à réellement une nature. Taxe fiscale, redevance, ou pratiquement l'impôt, on n'arrive pas à bien fermer la chose. C'est ainsi que, pour tout le monde, je ne suis pas dans le sens de dire que l'on puisse supprimer le repas. Mais plutôt, que le gouvernement puisse s'appliquer, parce qu'il s'agit de son service, la RVA, pour définir la nature des repas, et dire à la population, voici le service mis à ta disposition pour que tu arrives à payer les compas. Sinon, cette servitude serait de tomber sous le coup de l'enrichissement illicite.
Merci, merci beaucoup, Maître Likonza. Vous estimez d'abord qu'il faut commencer par expliquer à la population la nature des de GoPass pour et puis afin présenter aux gens ce qui doit être fait, ce qui est fait par rapport à la gestion. Cela veut dire qu'il faut clarifier tout le mécanisme de la perception, la gestion, la traçabilité, les résultats, comme vous l'avez dit, parce que les gens qui payent, ils ont besoin quand même de voir la contrepartie de l'argent qu'ils payent. Et comme ça, ça pourra éviter que les uns et les autres puissent interpréter d'une ou d'une autre manière le GoPass. Merci beaucoup, Maître Likonza. Nous restons à Kinshasa. Félicien, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Et pour vous, vous avez suivi le grand problème aujourd'hui, c'est que les gens voudraient bien voir la clarté qui est la traçabilité, la gestion, les résultats. C'est un peu ça, c'est qui fait que beaucoup de gens doutent de l'argent qu'ils payent. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer cette situation?
Oui, mais justement, Pierrot, moi ce qui me fait mal, c'est le comportement de nos dirigeants. Ils nous disent que nous sommes dans un pays démocratique et que nous sommes, on nous appelle une République démocratique du Congo. Mais il y a un problème de transparence même dans des choses aussi simples qu'on pouvait faire sans qu'on ait trop de polémiques là-dessus. Vous comprendrez que ailleurs, d'abord, pour ce genre de taxes, on sensibilise la population, on vulgarise, on convainc, et après, on l'impose et on l'exécute. Mais chez nous, vous vous réveillez le matin, vous arrivez à l'aéroport, vous dites non, vous devez payer les copas, sinon vous ne pouvez pas voyager. Vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix, et vous payez. Et quand on prend cet argent-là, on l'utilise comme on veut. On ne peut même pas dire, non, vous avez consenti des efforts, peuple congolais, voilà ce que vous avez produit avec le GoPass, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous avons fait. nous avons consulté l'aéroport, nous avons consulté l'aéroport, nous avons fait ceci, nous avons cela, et tout ça dans la transparence, pour respecter ne fût-ce que ses compatriotes. Les impôts, déjà, nous les payons, nous ne demandons pas de comptes. Mais en dehors des impôts qui devaient résoudre les problèmes, parce que c'est avec les impôts qu'on doit construire les pays, on ne nous dit rien, et on vient un matin, non, vous devez payer le GoPass, nous le payons malgré nous, et la période dont on le gère, on ne nous dit rien. La RVA a ses revenus avant la GoPass, les GoPass plutôt, excusez-moi, il a des revenus. L'État congolais donne des subsides à la RVA, il y a un budget. Mais le GoPass, c'est l'argent que le peuple a donné contre son gré, on lui a imposé, mais pour un peu les calmer, même pour un peu les considérer, on pouvait quand même lui faire des comptes. Mais quand on se réveille le matin, on voit un arrogant, le président de la République l'a inauguré. C'est le président de la République qui a construit avec son argent, c'est l'argent des GoPass, c'est l'argent des budgets de l'État, ou c'est quoi, on ne sait pas. Et là, on dit que nous sommes dans une république démocratique et que le peuple vraiment est souverain, il est respecté. Non, il faudra que les gens changent de comportement. Nous ne devons pas continuer comme ça. Il y a des choses peut-être qu'ils peuvent garder secret ou ils peuvent avoir l'opacité comme ils le veulent. Mais quand c'est l'argent du peuple, on doit lui expliquer parce qu'il a consenti et des sacrifices pour faire cela.
Merci beaucoup, Félicien. Vous avez dit, d'ailleurs, la procédure aurait été d'abord de sensibiliser la population, de vulgariser la taxe et après l'instaurer et expliquer à la population dans la transparence comment l'argent est collecté, à quoi est destiné cet argent. Et quand bien même il y a de travaux qui se font, ne fût-ce que pour assurer la transparence, parce que c'est l'argent collecté auprès de la population, donner des explications aux gens d'une manière détaillée pour éviter que cela ne soit interprété d'une ou d'une autre façon. Merci beaucoup, Félicien. Nous allons terminer pour cette première partie des auditeurs avec Bernadette qui nous appelle de Brazzaville, au Congo d'en face. Bernadette, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour.
Ah, bonjour, JR.
Merci, Bernadette.
Merci pour l'opportunité d'intervenir ce matin.
Oui.
Je félicite le courage de l'intervenant, monsieur Somoy. Comme participant, je dirais, la taxe n'est pas mauvaise tant que son utilisation transparente, je souligne, contribuerait à l'objectif pour lequel elle a été autorisée. Là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sérieux, que ce soit de l'entrée, que ce soit de l'utilisation de ces fameux groupes. La corruption domine les rapports entre contrôleurs et contrôlés. Personne n'ignore que les missions de contrôle sont aubaines pour le contrôleur. Personne ne l'ignore. Vérifions maintenant sur le terrain. Quel aéroport a été modernisé en RDC selon les normes, soit nationales, soit internationales, à ce jour? Depuis 2009, la RDC, l'Afrique centrale, est vraiment le paradis de l'impunité. Parce que si l'actualité nous parle des arrestations et mises en accusation pour des raisons d'opinion politique, de banditisme, il n'y en a pas pour détournement, corruption et honte de deniers et fonds publics. Dans quel état se trouvent les aéroports de la République? Dans quel état se trouvent les aérogares? Moi, j'habite Brazzaville et je voyage beaucoup dans le département. Je peux vous dire que tous les chefs-lieux des départements de la République du Congo ont maintenant un aéroport aérogare respectable. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec l'argent des gros packs? Ce sont des sommes énormes qui ont échappé à tout contrôle. Et tout le monde connaît pourquoi. Les provinces de la République, pour la plupart, sont dans un état moyenâgeux.
Allô?
Oui.
Oui.
Arrivé à l'aéroport, j'ai pleuré. Parce que quand j'étais jeune, aujourd'hui j'ai 62 ans, quand j'étais jeune, j'avais 4 Sangani. J'ai pleuré. L'autre fois, j'ai été à Lodja. J'ai pleuré. Tout est redevenu au niveau végétatif. Comme à l'époque où Livingstone et Stanley sont venus pour découvrir le Congo. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut que l'impunité sages.
Voilà, merci.
Si on doit continuer avec les traitements de faveur, comme depuis tous les autres régimes qui ne font que se succéder,
ça
le Congo ne se développera pas.
Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Bernadette. C'est important, votre témoignage et les soucis que vous avez. Vous souhaitez qu'on ait un contrôle sérieux, que ce soit à la perception, que ce soit dans la manière dont l'ego passe est utilisé pour effectivement qu'on arrive à moderniser, réhabiliter les aéroports, les aéroports, c'est ça votre souci. Il faudrait qu'on puisse évoluer, mais vous estimez que s'il n'y a pas un contrôle sérieux, s'il n'y a pas des responsabilités établies et si l'impunité persiste, ça sera difficile qu'on arrive vraiment à avoir la transparence dans la gestion de ces fonds et leur affectation. Merci beaucoup, madame, de nous avoir appelé de Brazzaville. Michel, vous gardez la ligne, vous êtes à Matadi, et Jean Dédu à Kikuit, on va revenir à vous, 081-890-535, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capitule propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Michel Sommet, vous avez suivi nos auditeurs. Moi, et je me dis, il se dégage d'abord une préoccupation, c'est la procédure elle-même dans l'instauration de la taxe qui a échappé peut-être à la population, la sensibilisation en amont, mais aussi la perception, la gestion pour permettre à ceux qui ont contribué puissent réellement se rendre compte du travail fait par leur contribution. Votre point de vue par rapport à ce qui a été dit.
C'est vraiment un cri de cœur qui vient de la part des Congolais, à mon avis, mû par une véritable conscience nationaliste. Parce que, comme a dit Félicien, nous sommes une république en plus démocratique. Non seulement on est république, c'est bientôt, on est en plus démocratique. Mais les procédures qui se font ou qui sont courantes dans notre pays, lorsqu'il est question d'engager le peuple lui-même, on fait comme si, a dit tout à l'heure Maître Lucoré, je crois, tout se transformait en impôt. Même la taxe devient pratiquement un impôt. Même quand elle est parafiscale. C'est comme si on devait absolument vous confisquer de force ce que vous auriez pourtant dû donner de bonne foi et de bon cœur. Parce que sachant que c'est pour des services nobles que ça va être fait. Et dans le cas précis du GoPass, parce que c'est de ça qu'il est question, je fustige moi aussi cette façon de fonctionner de l'État congolais. Parce que le GoPass, il faut le dire, n'est pas dans sa nature quelque chose de si mauvais que ça. Si vraiment son objet est de pouvoir moderniser nos aérogares, quoi de plus noble ? Qui ne voudrait pas un jour atterrir sur un aéroport moderne, comme on le voit à travers le monde, quand on voyait dans d'autres pays, Mme Bernadette a cité le cas d'un pays qui nous est très proche, très voisin, mais pour qui nous devions servir de modèle. Mais c'est celui-là qui s'engage dans une modernisation. Il a parlé de Lodja, je parlerai de Cabinda, où le chef de l'État était même incapable de décoller avec son hélicoptère au moment de la campagne. Impossible de décoller. Mais on continue quand même à fonctionner dans cet état de choses-là. Quand on dit qu'il faut moderniser, je crois que c'est une aventure noble, c'est un objectif noble. Mais il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux gens que nous sommes des imbéciles à qui on doit ravir l'argent du matin au soir. Un intervenant de Lubumbashi a fait allusion à la taxe statistique, qu'il appelle la taxe des provinces, qui a été instaurée à partir de Kinshasa par André Kimbuta. Sans informer personne, sans demander autorisation de l'avis de personne, vous vous réveillez le matin, vous arrivez à l'aéroport, on vous impose, vous payez. Vous payez la taxe statistique, sinon vous ne voyagez pas. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte dans une république démocratique. Et le peuple n'est informé d'absolument rien du tout. Vous vous réveillez le matin, vous sursautez, il y a une taxe. C'est une pratique trop ancienne que nous avons tous décriée lorsque nous avons appelé de tous nos voeux la réinstallation de la démocratie, lorsque nous avions applaudi de nos deux mains l'arrivée de la FDL en disant force de libération du Congo. Parce que souvenez-vous, avant le GoPass, il y a eu des taxes qui continuent à être perçues jusqu'à ce jour dans les billets d'avion. la taxe des monuments pour les monuments nationaux. On avait augmenté le prix du billet depuis 1990, s'il vous plaît. 1990, on a augmenté le prix du billet d'avion parce que, disait-on, on doit construire des monuments à l'honneur de nos héros nationaux, à l'honneur de tous les pour retracer tous les vestiges de notre passé.
Et cette taxe est toujours perçue sur les billets d'avion.
On n'a jamais supprimé. On a jamais supprimé cette taxe-là, à ma connaissance. Et nous avons ainsi dans ce pays pratiquement le coût du voyage le plus élevé du monde. Parce que pour une heure de voyage, simplement une heure de voyage, vous payez minimum $200 pour arriver à Mbujimaï, $200 de billet. Mais c'est absolument énorme, c'est inacceptable. Il vaut même mieux payer son billet pour l'Afrique du Sud. Quand vous allez à Lubumbashi, il vaut mieux payer pour l'Afrique du Sud, pour faire rester à Lubumbashi, rester à Lubumbashi, que de payer le billet d'avion directement qui est à Lubumbashi. Ce sont des choses qui ne sont pas normales, qui font des... Alors moi, je pense que pour un pays comme celui qui se veut être mondial, il y a des choses qui devraient être absolument corrigées. On parle maintenant du pavillon présidentiel qui serait quand même un chef-d'œuvre qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. D'accord. Mais le pavillon présidentiel était-il vraiment, à mon humble avis, la raison fondamentale pour laquelle il fallait instaurer le GoPass et obliger chaque citoyen congolais à payer pour un pavillon présidentiel auquel il n'aura jamais droit d'accès? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avant ça? Et maintenant, quel est le coût du pavillon présidentiel? Ça pose aussi un autre problème. Parce que nous avons vu des documents qui ont circulé à un moment donné par certains membres de l'équipe qui avaient contribué à l'étude de ce travail-là. Il y a des gens qui vous disent que ça devait coûter maximum $11 millions. Il y en a qui vous disent que ça coûtait finalement une facture de sortie jusqu'à au-delà de $45 millions.
Et là, c'est pour résoudre la question de auditeurs qui reviennent sur la traçabilité,
la transparence. Non seulement vous n'informez pas le Congolais du bien fondé de la taxe que vous allez lui demander de vous payer de bon cœur, vous ne l'en informez pas, vous vous foutez de lui, mais en plus, quand vous utilisez cette taxe, vous ne lui faites aucun rapport et c'est un flou total. Et il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans ce pays. Regardez encore un dossier, le contrat chinois. Mais c'est un contrat qui devait lever des milliards de dollars. Quel Congolais n'aimerait pas que nous ayons un contrat qui rapporte 8 milliards, 9 milliards de dollars à ce pays? C'est noble, c'est bon. Mais pourquoi cette opacité? Mais c'est un dossier qui devrait faire l'objet d'un débat public. On devrait en débattre, en discuter à fond, écouter les avis des uns et des autres et savoir comment élaborer à partir de là une position de la RD Congo qui soit viable, qui soit effectivement favorable au développement de la nation. Mais quand on parle du financement des accords entre la BAD et le gouvernement pour ce qui concerne le GoPass, mais à qui on rend compte de tout ça? Moi, je crois que nous avons quand même aujourd'hui le Congo. En 2015, a produit des millions d'universitaires qui réfléchissent et qui devraient pouvoir aider le gouvernement à s'orienter dans la bonne direction. Mais il y a le mal, il y a la maladie dont nous souffrons, qui ne veut pas dire son nom, la corruption. La corruption à tous les niveaux. La corruption à tous les niveaux. Vous allez vous rendre compte que, quand bien même le chef de l'État aujourd'hui, à travers M. Luzolo, se lance là, dans une campagne de corruption pour dissuader les gens, il frappant fort pour prouver la bonne foi du chef de l'État, il devrait commencer par ressusciter les dossiers qui ont été débattus au Parlement et qui sont restés lettres mortes jusqu'à aujourd'hui, pour que nous puissions creuser là-dedans et lancer un appel fort et puissant pour dire on doit mettre fin à la corruption. Mais il faudrait aussi que l'exemple vienne d'en haut. Parce que lorsqu'on vient réhabiliter le bâtiment de la primature, ce qui est beau, mais on doit rendre compte, dire aux Congolais combien ça nous a coûté. Lorsqu'on construit un kilomètre de route, on doit pouvoir dire aux Congolais un kilomètre de route chez nous, ça coûte $14 millions au lieu de $1 million parce que voici les raisons. Mais on ne le dit pas. On laisse la spéculation. Pourquoi 14 millions, pourquoi pas 1 million? Pourquoi le pavillon présidentiel doit coûter des dizaines et des dizaines de millions de dollars alors que l'aurait dû coûter quelque chose aussi de similaire?
Et d'ailleurs, la Cour de compte, oui,
elle est rapidement. Pierrot, vous savez, c'est comme aussi le cas de Bukangalonzo. Je ne sais pas du Mélimélo. J'ai lu quelque part dans la presse une analyse très pertinente, très objective, très documentée, qui dit que la même production du maïs, les deux provinces du Bas-Congo et du Bandundu, ensemble, quand on rencontre de la production, c'est un investissement de $2 millions pour les deux provinces, mais qui parvient quand même à produire au-delà de 20 000 tonnes de maïs par an. Alors que Bukangalonzo, ça coûtait $80 millions, ne produit même pas plus de 5000 tonnes de maïs. Il y a un problème. Il faut expliquer à l'opinion pour dire, écoutez, pourquoi vous avez consenti 82 millions de dollars pour une entreprise dont la production n'est pas visible sur le terrain.
Et voilà, c'est quelque chose que je demande, mais c'est le travail aussi des parlementaires. C'est pour cela qu'il y a des parlementaires, que ce soit au niveau des provinces ou au niveau national. Mais l'inquiétude, pour vous redonner la parole rapidement avant d'écouter encore les compatriotes, c'est au niveau de la Cour des comptes. C'est pas qu'il y a eu beaucoup de difficultés en ce qui concerne la gestion de l'argent généré par cette taxe. Il y a des sommes qui ont été utilisées, que ce soit pour rembourser les dettes, par exemple de l'État congolais qui devait à une entreprise sud-africaine une dette, mais comme l'État ne parvenait pas à le faire, cette entreprise a saisi la justice qui, à son tour, a bloqué les comptes de l'IDEF en Afrique du Sud, et on était obligé de pouvoir rembourser. Il y a aussi l'argent qui a été utilisé pour payer les arriérés des primes et des salaires, et tout de suite après, et c'est là détourne complètement la vision pour laquelle la taxe a été instaurée. Mais notons quand même que ces rapports datent de 2012. C'est qu'on espère qu'il y a des choses qui doivent avoir évolué. Mais bon, malgré ces rapports, on ne se rend pas compte que les choses n'ont pas assez évolué. Les degrés de responsabilité, rapidement avant d'écouter les compatriotes.
La Cour des comptes est un instrument du Parlement. Notre Parlement, notre Assemblée nationale et notre Sénat. Mais un rapport de 2012... Avez-vous jamais entendu au Parlement un débat sur cette question du GOPAS et sur ces questions-là qui sont soulevées par la Cour des comptes? Ça veut dire que, ou bien les gens ne lisent pas les rapports de leur propre service, ou alors ils se foutent de ça parce que la corruption chez nous est considérée comme un phénomène normal. Et comment ne pas le dire? Vous avez parlé du Parlement, Pierrot, vous avez raison. Comment ne pas comprendre cela lorsque nous savons que, dans la majorité des cas, pour entrer au Sénat, ça s'est acheté, cash. C'est de l'argent qui a été dépensé sous forme de corruption. Jusqu'au sommet. Comment ne pas comprendre que la corruption soit considérée comme un phénomène normal? Même au sein de l'Assemblée nationale.
Et cela affaiblit les institutions pour jouer le rôle de contrôle comme il faut.
Mais comment vous pouvez être voleur et arrêter un voleur? Comment pouvez-vous crier au voleur pendant que vous-même vous êtes le premier voleur? Tout le monde sait que c'est ce que vous faites tous. C'est ça le problème. Moi, je crois que si on veut, comme dit l'Évangile, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de votre voisin, enlevez d'abord la poutre qui est dans votre œil. Il est bon que pour lutter contre la corruption, depuis le cabinet et depuis le chef de l'État jusqu'au dernier des citoyens, qu'on commence d'abord d'en haut pour dire débarrassons-nous de tout le mal que nous avons fait à ce pays.
Une prise de conscience nationale.
Restituons à ce pays ce que nous lui avons
fait. On va revenir à vous, Michel Etamata, dirigeant dédié à Kikwit. Chris, c'est ici à Kinshasa, 081-890-63-15, le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Michel, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le président.
On vous écoute, Michel. Qu'est-ce qui doit être fait parce qu'on tend vers la dernière partie? Quelles sont les pistes des solutions pour arriver à une bonne gestion de cette taxe?
Je pense que la maman des travailleurs a donné une interpellation que je voulais aussi compléter.
Mm-hmm.
Elle a dit il faut que les choses changent. Et moi, je voudrais compléter en disant que ce ne sont pas les choses qui doivent changer, mais ce sont les hommes qui doivent être changés. Pourquoi? Parce que si nous parlons des taxes dans notre pays, dans sa globalité, vous allez comprendre que les taxes, les impôts que nous donnons, qui devaient contribuer à la vie de la République, cet argent-là contribue au développement des individus. Or, si nous allons bâtir des vies des gens, nous négligeons la République. Dans ces cas, nous tuons notre propre pays. Frère, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Toutes les réalités que nous sommes en train de voir, nous louons. Mais ça ne répond pas à la taille de la République. Aujourd'hui, lorsque nous prions que non, il y a une amélioration, nous avançons. Voilà, nous sommes bénis de louer il y a 32 ans. Je vous dis, il y a des pays qui ont vécu aussi dans cette faiblesse, mais ils se sont rendus compte de leur état. Et aujourd'hui, ils sont de l'avant. Frère, ce qu'ils nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu la chance de quitter la RDP pour notre pays. Nous sommes en retard par rapport à la modernisation. Il y a d'autres pays africains qui, aujourd'hui, si vous y allez, vous allez vous étonner de ce qu'ils ont fait dans 10, 20 ans, 30 ans. Vous savez, si nous devons parler des dates. Je prends un exemple. C'est ce qui s'est passé au Miss Mobila. Vous avez vu les bureaux qui se sont créés, que le gouvernement ne reconnaissait même pas. Mais aujourd'hui, nous avons liquidé ces bureaux-là. Mais il y a des gens qui se sont servis 10 ans, 20 ans, en train de récolter cet argent. Qu'est-ce que l'État, notre justice, a fait de ces gens-là qui ont violé, qui ont volé la République? Moi, je crois, si nous voulons devenir grands, nous devons aussi mettre des bases. Aujourd'hui, notre justice est faible. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas même en mesure d'arrêter ce qui tue la République. Si je vous donne l'exemple, faisons des enquêtes. Prenons les péages qui sont l'argent qui sont perçus dans nos péages ici. De Mouanga jusqu'à Kinshasa. Si vous faites des enquêtes, il y a l'argent qui entre. Et si on vous donne les montants, vous allez dire, dans 10 ans, la République sera une chose. Même nous, ici, dans la province de Bagomo, on ne devait plus envier ce qui se passe dans d'autres cieux. Le problème, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte si vous posez la question aux gens qui travaillent ici-là. Il y a des individus qui perçoivent de l'argent dans ces péages-là, qui n'entrent pas dans la caisse de l'État. C'est pourquoi, pour conclure, j'allais seulement dire à ce moment-là, et ça, c'est un cri. Mais ces cris-là, les choses ne doivent pas changer si les hommes ne changent pas. Nous devons changer les hommes.
Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci beaucoup, Michel. C'est important. C'est important ce que vous avez dit, Michel. C'est important. Vous avez dit les choses ne doivent pas changer, mais ce sont les hommes qui doivent changer. Mais il y a une dimension que vous avez ajoutée, c'est le rôle de la justice dans l'accompagnement de ces changements. Vous estimez que la justice doit vraiment accompagner le changement de l'homme pour que la RDC réalise les choses, n'est-ce pas, qui correspondent à sa taille et sa grandeur. Merci beaucoup, Michel. Jean des Dieux, vous êtes à Cucuit dans la province de Bandundu. Bonjour, Jean des Dieux.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité. Merci de m'avoir aussi associé à cette émission.
On vous écoute rapidement, Jean des Dieux. On tend vers cette dernière partie des pistes et des solutions. Quel est votre point de vue?
Ok, ok. Merci beaucoup pour y arriver. Je sais que depuis l'adoption de cette taxe, où cela a été annoncé depuis l'an 2009 jusqu'à maintenant, ça fait maintenant 5 ans. Il n'y a rien qui est fait. Nous devons d'abord nous poser la question. Pendant qu'on a lancé cette taxe-là, où on a voté cela, je ne sais pas si cela a été voté au Parlement ou pas, et ils doivent quand même donner le bilan de ce qu'ils ont déjà fait. De ce qu'ils ont déjà fait depuis les 5 ans où on a voté cette taxe-là. Et maintenant, dans 5 ans-là jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Il y a combien d'aérodromes qu'on a déjà aménagés? Et il y a combien de projets où on est en train de préparer pour que cela soit lancé à la longue, pour qu'on puisse réhabiliter d'autres aéroports? Parce que ici, puis, on ne voit absolument rien, parce que cela concerne toute la République. On ne voit absolument rien, c'est tous ces éléments des histoires depuis l'époque coloniale, même des maisons qu'on a construites à nos dans nos aéroports aussi de l'époque coloniale aussi, les autorités viennent ne vont même pas là où aller ce soir. Il n'y a même pas des endroits où pour aller accueillir ces gens qui viennent. C'est pourquoi, pour mettre fin à cette 50e, moi, j'ai dans même avis avec l'auditeur de Kinshasa qui a dit que cela doit quand même être supprimé catégoriquement parce que, voyez, pendant qu'il y a les autorités ou bien les gens, les travailleurs de la même famille politique qui sont là, il y a pratiquement difficile pour que cela soit sanctionné, tous ces gens-là soient sanctionnés parce qu'il est de la seule famille politique et il est branché par un tel. Vous voyez, après tout à l'heure là, les gangrènes continuera toujours.
Ça sera difficile. Avec les trafics des flancs, vous estimez si on doit politiser la gestion de ces entreprises publiques, ça sera difficile qu'on puisse résoudre cette question. Mais, Jean des Dieux, vous êtes inquiet. 5 ans après, vous estimez que si on n'est pas en mesure de vous fournir, vous qui payez les GoPass, les projets, les réalisations, les fonds perçus, et ce qui doit être fait dans l'avenir, et vous pensez qu'il serait mieux de pouvoir supprimer, parce que, avec les colorations politiques, ça sera difficile de pouvoir résoudre cette question. Merci pour votre point de vue, Jean des Dieux, ici à Kinshasa. Chris, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot. Bonjour à notre invité, bonjour à tous les Okapiens et Okapiennes.
Merci de nous avoir rejoints. Rapidement, votre point de vue pour une bonne gestion de cet axe, Chris.
Oui, moi, je ne suis pas d'accord de la suppression de cette taxe. Évidemment, la taxe doit exister, puisque la taxe contribue au développement économique d'un pays qui est la RDC. Mais nécessairement, pour cette affaire, moi, je demanderai la transparence. Alors, la transparence doit être lorsque que cette régie sera associé à travers les autres afin de travailler dans une codominance pour les contrôles. Et aussitôt, n'est-ce pas, vulgariser aussi, bien avant, montrer les gens comment est cette taxe, au lieu que les gens soient surpris lorsqu'ils se trouvent à l'aéroport pour un déplacement, voilà la taxe et qu'on sort. Donc il faut que tout soit bien avant, que les gens ne soient pas surpris.
Okay. Merci beaucoup, Chris. Vous souhaitez qu'il y ait la transparence et que d'autres régies soient associées à la gestion de cette taxe. Beaucoup d'internautes, je crois bien, depuis le week-end que l'émission a été postée sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, on ne saura pas exploiter les commentaires. Ils sont tellement nombreux. Mais globalement, tous les internautes sont d'accord qu'il faudrait vraiment la transparence dans la gestion de ces fonds. Il y en a même qui ont demandé que le rapport de la Cour des comptes soit transmis, que ce soit à la justice, que ce soit auprès du conseiller spécial du chef de l'État chargé de la lutte contre la corruption et les blanchiments des capitaux. Il y a Emma Tshisambika qui est revenue là-dessus, qui estime, lui, qu'au lieu de pouvoir supprimer, mais il faut tout simplement contrôler et que tout soit géré d'une manière transparente. Voilà, beaucoup d'auditeurs sont revenus là-dessus. Je crois, peut-être avant d'écouter les derniers auditeurs, nous avons ce message de Bruno qui nous a écrit, Bruno Kalunga depuis Lubumbashi, qui dit ceci: le mal dans notre pays, c'est le lourd fardeau de la Deuxième République et ces fameux articles 15. Par manque d'équité, on a créé des méthodes pour pouvoir se servir de la caisse de l'État. Pensez-vous que ceux qui s'occupent de la perception de ces fonds à la RVA pourront-ils déroger à la règle si on n'est pas à mesure de pouvoir changer? Alors, il y a Didier Serge Moussanga qui dit « Les GOPAS devaient être une issue de sortie dans la résolution de certains problèmes dans la gestion des aéroports, mais allez-y comprendre qu'il y en a qui manquent même des toilettes à travers le pays, mais qui les passagers continuent à payer cet argent. » On revient à vous, Michel Sommoy, rapidement, peut-être avant d'écouter les derniers auditeurs, mais en lisant ces rapports, la conclusion, c'est que ça a été mal organisé, mal encadré, c'est ce que la Cour des comptes dit, et on revient au terme opacité, parce qu'il y a beaucoup de détails dans les travaux qui ont été faits sur terrain, de documents qu'on ne peut pas retrouver, de chiffres qui ne correspondent pas, mais à un certain moment, on dirait que la situation risque de rester la même si, même au niveau du pouvoir public, au niveau de la primature, on estime que c'est à la RVA de pouvoir discuter avec les interlocuteurs pour dire clairement ce qui doit être fait. C'est ce qui a fait aussi qu'on ne pouvait pas avoir facilement un représentant du pouvoir public pour évoquer cette question dans cette émission.
Non, c'est absolument irresponsable. On ne peut pas, au plus haut niveau de l'État, renvoyer la responsabilité d'une telle question à la RVA seule pour dire qu'elle se justifie auprès de la population. Et à moins que vous reconnaissiez qu'il y a implicitement votre part de responsabilité dans le cambouis actuel et que vous voulez garder les choses dans l'opacité. La question, Pierrot, n'est pas tellement dans la nature de la taxe elle-même. La question est fondamentalement dans la nature de notre État lui-même. C'est un peu ça les propos, si je comprends bien, de tous ceux qui sont intervenus ici, le Félicien, Maître Likonza, Madame Bernadette, et tous ceux qui interviennent. En fait, la question fondamentale, au regard d'une situation qui est paradoxale par rapport à ce que je veux dire, la revendication fondamentale de notre État qui se veut être démocratique, avec des pratiques qui relèvent d'une sorte de tyrannie, de dictature. en faisant de la République une sorte de patrimoine privé pour quelques individus qui peuvent, du lendemain, décider du sort des autres comme bon leur semble. Il y a un problème fondamental dans la nature de notre État. Je n'anticipe pas sur des solutions, mais je suis en train de dire que quand on dit qu'il y a un problème d'homme, et ça, je crois que c'est...
Michel a dit qu'il faut le changement, c'est plus les hommes qui doivent changer.
Il a dit avec raison. Et bien sûr, il faut lier les choses. On ne peut pas avoir de changement des choses tant qu'il n'y a pas de changement d'homme. Changement d'homme, nous reconnaissons que la question qui concerne la défense des intérêts de la population est avant tout la raison d'être d'un Parlement. Et je crois qu'une opportunité est donnée aux Congolais de pouvoir corriger les erreurs,
mais
de pouvoir corriger les mécanismes de mise en place de nos députés, de nos parlementaires.
C'est ça, dans la procédure des choix. Mais rapidement, alors, la solution, parce qu'il faudrait qu'on puisse conclure par là, qu'est-ce qui doit être fait pour que la population se retrouve dans la gestion de ces taxes rapidement?
Comme a dit tout à l'heure Chris Mutombo, il ne faut pas envisager la solution sous la forme de la suppression de la taxe GOPAT, parce que les gens ne se sont pas plaints du fait de payer la taxe. Les gens se plaignent de la façon dont la taxe est utilisée lorsqu'elle a été payée. C'est là qu'il y a la question. Donc ça signifie que la taxe peut être maintenue, peu importe, pourvu qu'elle soit utilisée effectivement au développement de notre pays. Et pour que la taxe soit utilisée au développement de notre pays, il faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle qui soient efficaces et puissants. Et ces mécanismes de contrôle qui soient efficaces et puissants sont effectivement l'apanage, le ressort du Parlement. Et donc il faudrait que le peuple lui-même se rende compte de sa responsabilité lorsqu'il est floué. Parce que si aujourd'hui on abuse de la bonne foi du peuple, c'est parce que la façon dont le peuple se choisit ses représentants, elle est médiocre. C'est le problème. Donc il faut saisir l'occasion qui nous est donnée à travers le renouvellement de nos élections parlementaires.
Merci.
Nous puissions avoir le changement attendu du côté de la gestion de l'État.
Merci beaucoup Michel Somoué, analyste économique. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter cette question et les soucis que vous avez dans la gestion de cette taxe. On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Dieudonné Nyangata a assuré la mise en onde. Julie Fait à la réalisation. J.R. Lungembo était à la coordination. Et Pierrot Lamé, je vous l'ai présenté sous la supervision de Léonard Moulamba. On retrouve Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Au revoir.